entendu ou ce que vous souhaiteriez. Alors, pour cette dernière séance, je vais reprendre dans un premier temps cette analyse du divin chez Nietzsche, tout à fait étrange, et dans un deuxième temps, la deuxième heure, ou un peu avant, eh bien, on tâchera d'ouvrir une discussion. J'ai déjà reçu plusieurs questions par écrit, mais je suppose que vous en avez d'autres. Je crois que c'est très utile quand même de revenir sur ce parcours et de discuter certains aspects. Alors, je crois qu'il n'est pas vain de nous arrêter encore un peu ce versant de la pensée nietzschéenne, souvent peu abordé, analysé, pris au sérieux, à savoir cette référence au divin. Parce qu'il est clair que dans la vulgate commune, dans la pensée commune, Nietzsche est classé parmi les athées. Et on pense évidemment que, du fait même, c'est un personnage totalement areligieux, voire anti-religieux. Or, je dois avouer que j'ai moi-même découvert ça en travaillant cet auteur, on s'aperçoit que s'il est en effet tout à fait hostile au monothéisme au singulier ou au pluriel, il n'est pas pour autant un personnage hostile à la religion. Et même au contraire, on peut dire qu'il a lui-même un aspect, mettons beaucoup de guillemets, mystique. Andreas Lou Salomé, qu'il avait voulu épouser à un moment, qui est un personnage tout à fait extraordinaire, a écrit un petit livre sur lui tout à fait intéressant parce qu'elle a très bien vu ce côté mystique, je ne sais pas comment l'appeler, religieux de Nietzsche. Et donc, même si dans ses écrits, cela apparaît, pour des raisons qu'on comprend bien, un peu marginal, il n'en reste pas moins que c'est une insistance forte sur laquelle je crois il est bon de revenir. Alors, la question que je posais la dernière fois, c'est précisément de savoir, est-ce que cette référence à Dionysos, par exemple à la fin de Par de la bien et le mal, c'est comme un texte central, n'est qu'un apax, une chose tout à fait singulière, une sorte de rustine collée sur un ensemble, ou est-ce que cette référence à un dieu, à du divin, fait corps avec l'ensemble de la position nietzschéenne, qui, j'espère que vous le voyez mieux maintenant, est tout de même très cohérente, même si on n'a pas affaire à un système à proprement parler. Alors, je crois d'abord qu'il faut... Je vais citer un certain nombre de textes, d'abord surtout, et pour montrer que ça n'est pas un texte tout à fait à part, et puis je ferai un petit commentaire. Alors, nous avions terminé la dernière séance par ce très grand texte tout à fait impressionnant qui oppose Dionysos et le crucifié. Bon, c'est un texte posthume, donc il faut toujours évidemment se méfier des textes posthumes. Enfin, c'est un texte, je crois, très significatif, puisqu'il oppose une typologie, deux types de rapport au religieux, de rapport au divin, et il met donc en opposition le crucifié, qui est donc un personnage, une invention paulinienne, n'est-ce pas, selon Nietzsche, qui n'est pas Jésus, et Dionysos. Deux manières de se rapporter au monde religieux. Ce qui les distingue, ce n'est pas la souffrance. Et il est tout à fait capital de bien noter ce point, car on dit souvent Nietzsche oppose au christianisme en tant que c'est une religion ascétique qui appelle la discipline, qui appelle la lutte contre les passions, et donc il exclut les souffrances. Non, puisque le problème pour ce qu'il appelle le crucifié, c'est que ce crucifié pense sauver le monde par une seule mort, rédemptrice, alors que le Dionysos ne peut sauver le monde que par une multitude d'écartèlements. Donc c'est d'un côté très peu, il y a une goutte de souffrance, c'est-à-dire rien, et de l'autre côté une infinité de souffrances qui reviennent éternellement. Bon, c'est donc aussi le thème de l'éternel retour. Texte tout à fait étrange. Le Dieu en croix, je cite simplement la fin, est une malédiction de la vie, un avertissement pour s'en sauver. Le Dionysos écartelé est une promesse de vie. Il renaîtra éternellement et reviendra de sa destruction. Donc cette idée, l'éternel retour du même, qui n'est pas exempt de la souffrance et de la mort. N'exclut pas la mort, mais l'inclut en soi. Donc une divinité qui accepte de passer, de mourir, pour renaître, et donc d'être prise elle-même dans le cercle de l'éternel retour. Alors, est-ce que nous avons déjà sur les bras, si je puis dire, deux textes, le texte du Par de la bien et le mal, qui nous dit que Nietzsche s'avoue avoir été, de manière étrange, le disciple de ce petit dieu, et le disciple ancien, pas tellement nouveau, plus le second. Alors, je vais encore en citer quelques-uns qui sont, je crois, hautement caractéristiques, que vous trouveriez en particulier dans mon petit livre, voilà, Nietzsche, l'été de rigueur. Alors, un premier texte, une série de petits textes, qui sont tous en effet des posthumes, sauf le dernier. Par exemple, dans un posthume qui est de l'époque du Gai Savoir, il écrit ceci, c'est au quatrième tome de La volonté de puissance, le paragraphe 407, et dans mon petit livre ici, la page 92. Vous dites que c'est une décomposition spontanée de Dieu, mais ce n'est qu'une mue. Il se dépouille de son épiderme moral, et bientôt vous le retrouverez par-delà le bien et le mal. Donc, on rejoint là le thème de la mort du Dieu moral, vous savez, du Dieu qui compte, du Dieu qui demande des comptes, du Dieu qui punit et qui juge. Mais il est possible d'entrevoir un divin par-delà cette distinction d'un Dieu personnel. Donc, il faut se méfier des morts de Dieu qui ne sont peut-être que des morts apparentes. Je cite encore ceci, également dans La volonté de puissance, au tome 4, paragraphe 581, « Ce n'est qu'après la mort de la religion que, souligné dans le texte, l'intervention du divin retrouvera toute sa luxuriance. » Donc c'est quand la religion, ce que j'appelle, je pense ici, c'est les religions constituées, les religions dogmatiques, lorsque ces religions se seront effondrées parce que non plus crédibles, etc., eh bien, derrière ces dogmes pourra ressurgir le divin dans ce qu'il a d'insaisissable, d'abyssal, et donc de non domesticable. À nouveau un petit texte, alors cette fois-ci dans « Ainsi par les Zarathoustra », le quatrième livre, « La fête de l'âne », qui est un texte assez amusant, où il y a un vieux pape qui délire, bon, peu importe, il écrit ceci, Zarathoustra dit « En matière de Dieu, au pluriel, la mort n'est jamais qu'un préjugé. » En matière de Dieu, la mort n'est jamais qu'un préjugé. C'est-à-dire une idée pour le moins contestable, il faut y regarder de plus près. Alors, encore un autre texte, toujours dans un posthume, des années 88, donc vers la fin, que vous trouveriez aussi dans La volonté de puissance au tome 2, c'est le paragraphe 580. Et combien de nouveaux dieux sont encore possibles? Pour moi-même, donc c'est un aveu à nouveau personnel, pour moi-même, en qui l'instinct religieux, c'est-à-dire formateur de Dieu, est vivant parfois à contre-temps, combien autre, combien différent, le divin s'est révélé chaque fois à moi. Hein, on retrouve le texte par de là bien mal. Le divin s'est révélé à moi, chaque fois différent. Tout tant de choses étranges m'ont assailli dans ces instants sans durée, qui tombent dans votre vie comme s'ils tombaient de la lune, où l'on ne sait même plus quel âge on a déjà atteint et si l'on redeviendra jeune. Je ne saurais guère douter qu'il y a bien des sortes de dieux. Il n'en manque pas qui semble inséparable d'un certain alcionisme, hein, c'est le bleu du ciel méditerranéen, et d'une certaine insouciance. Les pieds légers appartiennent peut-être au concept, entre guillemets, « dieu ». N'est-ce pas le dieu qui danse, les pieds légers, pas le dieu lourd qui mène le monde, qui juge, etc. Les pieds légers appartiennent peut-être au concept Dieu. Est-il nécessaire d'indiquer qu'un Dieu se tient de préférence au-delà de tout ce qui est bonhomme et raisonnable, au-delà aussi, soit dit entre nous, du bien et du mal? Il a la vue dégagée, pour parler comme Goethe. Et pour en appeler en ce cas à l'autorité de Zarathoustra hautement appréciable, Zarathoustra va si loin qu'il avoue de lui « Je ne croirai qu'à un Dieu qui sache danser ». Disons-le encore une fois, combien de nouveaux dieux sont encore possibles ? Nouveaux dieux encore possibles. Encore un autre texte, cette fois toujours dans les posthumes, mais qui nous renvoie toujours à cette expérience, je pense, de Sils Maria, d'une révélation finalement du divin. Vous le trouveriez, c'est dans les volumes ici de Colli et Montinari au volume 13, l'aphorisme 11, 337. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'unanimité sur les nominations, enfin peu importe. Voilà l'expérience qu'il a faite du divin. 5, 6 secondes et pas plus. Subitement, vous éprouvez la présence de l'éternelle harmonie. L'homme ne saurait soutenir ceci dans son enveloppe mortelle. Il lui faut se transformer physiquement ou mourir. Sentiment clair et indiscutable. Vous avez la sensation de contact avec la nature tout entière et vous dites « Oui, ceci est vrai ». Lorsque Dieu créa le monde, il dit à la fin de chaque jour « Oui, ceci est vrai, ceci est bien ». Ce n'est point de l'émotion, mes amis, c'est de la joie. Vous ne pardonnez rien parce qu'il n'y a rien à pardonner. Vous n'aimez plus, oh, ce sentiment est supérieur à l'amour. Le plus terrible est l'épouvantable certitude par laquelle cela s'exprime, la joie dont cela vous comble. Si elle durait plus longtemps, cette expérience, cette certitude, si elle durait plus longtemps, l'âme ne la supporterait pas, elle disparaîtrait. Dans ces 5 secondes, je suis à moi seul, une existence tout entière, une existence humaine tout entière, je donnerai ma vie pour l'éprouver et je ne l'aurai point payée d'un prix trop élevé. Pour pouvoir supporter cela, il faudrait se transformer physiquement. Bon, je dirais presque sans commentaire. Encore un dernier texte, si ça ne suffisait pas. Oui, qui nous fait revenir à l'idée de l'affirmation, du dire oui à ce qui est tel que c'est, car c'est lié à cela. C'est à nouveau un posthume dans le tome 2, le paragraphe, tome 2 de la montée de puissance, le paragraphe 633. La question primordiale n'est en aucune façon de savoir si nous sommes satisfaits de nous-mêmes. Mais si, de principe, nous sommes satisfaits de quoi que ce soit. J'ai toujours une idée. Le monde n'est pas là pour nous faire plaisir, il n'est pas là non plus pour nous déplaire. Est-ce que nous sommes satisfaits purement et simplement de ce qui est ? À supposer que nous disions oui à un seul instant, nous avons par là même dit oui non seulement à nous-mêmes, mais à toute l'existence, Dasein. Car rien n'existe pour soi seul, ni en nous-mêmes, ni dans les choses. Et si une seule fois, notre âme a comme une corde vibré et résonné de félicité, toutes les éternités sont nécessaires pour conditionner cet unique instant. Et toute l'éternité était dans ce seul instant de notre dire oui, ya Zagen, toute l'éternité était dans ce seul instant de notre dire oui, approuvé, racheté, justifié, affirmé. Bon, difficile de ne pas voir un langage quasiment théologique, racheté, approuvé, affirmé, justifié. Voilà, alors est-ce que, j'en reviens donc à un petit commentaire, est-ce que tout ceci est cohérent avec la pensée de Nietzsche ? Ben, je crois d'abord que ces témoignages sont nombreux, ils sont convergents. Et il rejoint la critique de la mort de Dieu, qui est la mort du Dieu de ce qu'il appelle, de manière un peu méchante, en Crépuscule des idoles, le monotonothéisme. Le monotonothéisme, c'est-à-dire le grand reproche fait au Dieu personnel, c'est de réduire le divin, de l'enfermer dans une identité connue, avec un dessein lui-même, un dessein S.O. Eien, lui-même connu. C'est une façon de capter le divin et donc de le tuer. Vous vous souvenez de ce texte que je dois avoir lu déjà dans le Zarathoustra, quand les dieux entendent le Yahvé déclarer « il n'y a qu'un seul Dieu » et tous les autres sont de faux dieux, les dieux rient de l'insolence de ce Dieu unique, qui prétend capter pour lui le divin. Donc, la mort de Dieu n'est pas la mort du divin, mais, comme l'un des textes que j'ai dit tout à l'heure le montre, peut-être la possibilité d'une reviviscence du divin. Reviviscence du divin qui n'est d'ailleurs pas, pour Nietzsche, un slogan, ni une annonce tranquille. Car pour lui, la mort de Dieu, c'est la mort de la croyance dans une certitude, dans une vérité. Or, nous savons que les hommes ont besoin de certitude, ne peuvent pas vivre sans volonté de croyance. Si l'on met à mal cette volonté de croyance, si elle est mise à mal par les renversements des valeurs, alors il y a grand risque que l'humanité soit incapable de trouver sa propre stabilité, c'est-à-dire qu'elle perde les points fixes qui lui permettaient de subsister. Et donc ce que Nietzsche prévoit, ce qu'il entrevoit à la fin après la mort de Dieu, c'est précisément le retour, la domination du nihilisme négatif. C'est-à-dire le monde a perdu ses points de repère, on ne sait plus où l'on en est. D'où la tentation de suicide, de mort, de nihilisme, de destruction. Car, autre idée, la volonté de croyance ne disparaîtra jamais. Simplement, le problème est de savoir quel type de croyance. Est-ce que c'est une croyance qui nous enferme dans une certitude et nous empêche, par faiblesse, de voir la splendeur du monde, de voir le beau chaos du monde, de voir par conséquent l'infinité du monde. Alors, je crois qu'il faut bien voir que derrière la critique de l'idéal de vérité, du platonisme, derrière la critique d'un Dieu personnel, est en jeu la découverte du chaos du monde, de l'impossibilité où nous sommes de nous en saisir, sauf par perspective. Et nous pourrions regarder un texte très important du Duguay Savoir, qui s'appelle, c'est le paragraphe 374, « Notre nouvelle infinie ». Et il met le mot « infini » entre guillemets. Bon, je vous y renvoie, je ne vais pas le lire parce qu'il est assez long. L'idée, c'est que précisément, nous ne pouvons plus prétendre à un point de vue de surplomb sur le monde, à dire le fond des choses, donc de ce point de vue-là, une certaine métaphysique est morte. Nous ne pouvons avoir que des perspectives. Et on ramène souvent Nietzsche, non sans raison, à une philosophie, à un perspectivisme. Certains vont même jusqu'à dire qu'il serait à cet égard des origines de la phénoménologie, puisque la phénoménologie en effet prétend ne pas pouvoir sortir du point de vue de celui qui regarde l'objet. Bon, je laisse ce débat de côté, ça donne lieu à des articles tout à fait intéressants, mais l'idée c'est que nous ne pouvons pas sortir de notre point de vue. Nous ne pouvons prendre, à nouveau, il faut penser à l'art, à la peinture. Nous ne pouvons avoir sur un tableau qu'un point de vue, une perspective. Et la perspective que nous prenons à un moment donné appelle la perspective que l'on peut prendre à un autre moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la perspective des perspectives. Celui qui vous dirait « le tableau ne peut être vu que de cette façon-là » passe à côté du tableau. Il y a mille façons de voir un tableau. Il y a plusieurs perspectives. Précisément parce que le tableau est toujours plus profond, plus vaste, plus infini, pour employer son mot, que ce que l'on peut en dire et en voir et en apprécier. Je lis un tout petit passage. Nous ne pouvons regarder au-delà de notre angle. C'est une curiosité désespérée que de chercher à savoir quels autres genres d'intellect ou de perspective pourraient exister encore. Le monde nous est redevenu infini une fois de plus, et pour autant que nous ne saurions ignorer la possibilité qu'il renferme une infinité d'interprétations. Une fois encore, le grand frisson nous saisit, Mais qui donc aurait envie de diviniser, reprenant aussitôt cette ancienne habitude, ce monstre de monde inconnu? Il est tant de possibilités non divines d'interprétation inscrites dans cet inconnu, tant de diablerie, de sottises, de folie. Notre trop humaine interprétation que nous connaissons. Donc, infinité du monde qu'il faut se garder, dit-il ici, de diviniser, c'est-à-dire de ramener à une certitude, mais le monde est redevenu ce beau chaos, en un sens, sur lequel, qui n'est fait que d'éclat, sans qu'on puisse donner un point de vue de totalisation. Alors, est-ce qu'on est capable, ça rejoint la volonté de puissance, de vouloir ce monde qui n'a pas un sens qui nous satisfasse, mais qui est ce qu'il est? C'est la volonté de puissance. Être capable de dire oui à ce qui est tel que c'est. Alors, ça nous ouvre à un autre thème très étrange, et que c'est très difficile certainement de bien analyser. C'est qu'on voit bien, puisque Nietzsche critique le monothéisme, l'idée d'un Dieu unique, qu'il revendique la pluralité du divin, la pluralité des regards sur l'infini, il est évidemment conduit à revaloriser le polythéisme. Et donc, loin d'être un athée pur et simple, on pourrait dire que son sens du divin le conduit à une réhabilitation du polythéisme. Je vous renvoie au paragraphe 143 du Gai Savoir, qui s'intitule justement « De la plus grande utilité du polythéisme ». Tout à fait, les dieux, il n'y a pas un dieu, il y a des, le divin se conjugue au pluriel. Il y a des dieux, il y a du divin. Bon, là aussi c'est un long passage que je laisse de côté, je ne vais pas le lire, je vous y renvoie. Mais l'idée c'est que dans le polythéisme grec, ce qui était affirmé, c'était précisément l'individu vivant et l'affirmation de Dieu qui voulait que l'individu vive. Donc cela représentait des religions de l'affirmation de la vie. Donc c'est cela, dit-il, dans ce même texte, que le monothéisme a éteint, au profit d'un seul Dieu, on pourrait dire, dominateur. Alors, à partir de... Vous voyez, vous avez combien de nouveaux dieux, etc. C'est quand même clairement... Alors, je crois qu'il faut faire très attention ici, parce que certains auteurs, j'ai parlé l'autre jour de Karl Levitt, nous disent à la fois l'éternel retour, c'est un retour à la cosmologie des Grecs, et nous disent en même temps, eh bien, Nietzsche renoue avec le polythéisme grec. Et je dirais qu'il y a une version mondaine, si je puis dire, de ce discours, que nous avons entendu chez le cher monsieur Stéphane Hessel, par exemple, avant qu'il ne meure presque à 100 ans. Vous voyez, monsieur Hessel, qui est un très brave homme, qui expliquait, lui, bon, juif, qui a d'ailleurs été très courageux pour la dénonciation des politiques d'Israël, disant, ah, mais le monothéisme, c'est la violence même. On impose la vérité. Tandis que le polythéisme, c'est la pluralité, c'est le parlement, c'est la discussion, c'est, etc., c'est l'amabilité. Bon. Alors, je crois que Nietzsche est quand même trop bien averti de ce qu'il en est de l'Antiquité grecque pour penser que la mythologie grecque, c'était une partie de thé où les dieux se partageaient élégamment le gâteau et le dessert. Le polythéisme grec, c'est quand même la vengeance, la mort, la tuerie, etc. Et c'est pas ça que Nietzsche, évidemment, veut voir revenir. D'autant plus que, comme il le dit dans d'autres textes, le christianisme est passé par là. C'est-à-dire que, d'une part, nous voyons bien que ces divinités sont totalement répugnantes, pas absolument toutes, bien entendu, et d'autre part, et surtout, le christianisme a mis en avant le sujet, la subjectivité. Et on ne pourra pas revenir en arrière de cette affirmation du sujet. Et donc, à nouveau, je crois qu'on ne peut pas dire, Nietzsche voudrait rayer tout l'apport du christianisme, nous l'avons vu maintes fois, pour retrouver un état antérieur qui serait magnifique. Alors, évidemment, on peut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il entend par ce polythéisme. Bien entendu, c'est un polythéisme sans culte, sans prêtre, sans... un polythéisme sans visage. Voilà, je dirais que c'est une découverte pudique du divin, malgré le fracas qu'on peut faire autour de Dionysios, Bacchus. C'est un divin qui, par certains côtés, implique du sacré. Nous avons déjà vu que Nietzsche n'est pas étranger à l'idée de sacré. Il ne faut pas tout mettre ses mains partout. Il y a le sens de la distance. Bon. Ben justement, c'est un divin sur lequel il ne faut pas prétendre faire main basse. Finalement, dont on ne sait rien, qui n'assure pas le salut, mais auquel on peut dire oui. Très étrange, évidemment. Mais c'est ainsi. C'est une altérité fondamentale. Devant laquelle l'homme peut simplement se tenir en disant oui. Alors, il me semble qu'il ne s'agit pas non plus d'une sacralisation du monde tel qu'il est, d'une sorte de divinisation de la nature, ça je crois que c'est tout à fait étranger à sa perspective, c'est un divin qui n'est pas identifiable à quoi que ce soit, je crois qu'il faut faire très attention à ce point. Mais c'est une divinité, évidemment, sur laquelle l'homme ne peut pas avoir prise, mais qui est cependant sensible à l'homme, le génie du cœur. On pourrait presque dire que Pascal est passé par là. C'est un Dieu qu'on peut éprouver sensiblement, qui peut se dévoiler sensiblement, qui peut se révéler, puisqu'on emploie même le mot de Offenbarung, qui peut se révéler sensiblement. Mais évidemment, on ne peut pas mettre main basse sur lui, mais après tout, dans sa profondeur, ce divin peut tout d'un coup se révéler comme une espèce de grâce. Une seule fois suffit. Donc il ne s'agit pas d'un salut qui serait, en quelque sorte, accordé, sur lequel on pourrait s'appuyer. Voilà. Tout à fait étrange, en effet. Je crois qu'il y a, et je vais terminer par là, une cohérence entre la volonté de puissance, disons les trois grands concepts nietzschéens, volonté de puissance, il faut être capable de ne pas se figer dans une volonté de croyance inconditionnelle, être capable de danser. Donc ça suppose une puissance sur soi, une maîtrise de soi tout à fait fondamentale. L'éternel retour, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'identifier à l'éternité, ni que l'éternité s'identifie à vous. Elle peut se dévoiler une fois, mais une fois suffit. Donc, éternel retour, et d'une certaine façon aussi, finalement, le surhomme, c'est ce danseur, comme l'enfant, qui serait capable de dire oui au monde, sans se chercher dans le monde. Au fond, ce serait un petit peu ça. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie à un très beau texte de Michel Art. Je crois avoir déjà, je l'ai donné dans la petite feuille de présentation plus court. Michel, oh là là, ça ne marche jamais, c'est chou. Michel Art, dans son livre s'appelle Dieu et la métaphysique, non plutôt Nietzsche et la métaphysique, chez Gallimard, 1993. Le chapitre 7 s'intitule « Métamorphose du divin ». Donc chez Nietzsche, un très beau texte, un très bon connaisseur de Nietzsche et de Heidegger, qui est malheureusement décédé assez prématurément. Et puis, voilà. Je voudrais finir par une citation de Henri Biraud, auquel je dois beaucoup, qui a enseigné un certain temps en Sorbonne et qui a écrit plusieurs articles sur Nietzsche et qu'on a rassemblé dans un livre qui s'appelle « De lettres du divin et des dieux » aux éditions du Cerf en 2005. Et il a fait un magnifique commentaire qui est repris dans ce livre de l'aphorisme du Gai Savoir « En quoi nous aussi nous sommes encore pieux ». Donc nous ne sommes pas sortis de la volonté de croyance. Alors, je lis ce passage. La philosophie de Nietzsche, écrit-il, n'est pas un nouveau dogmatisme, un platonisme à l'envers, une forme quelconque du réalisme métaphysique ou du positivisme scientifique. Nietzsche ne met pas un absolu à la place d'un autre. Il détruit l'idée même de place ou de lieu pour lui substituer celle de rang. Nietzsche ne nous prêche pas un nouveau culte, le culte des apparences ou le culte des faits, qui viendrait remplacer les formes vieillies de la piété traditionnelle. Nietzsche ne dit pas que l'homme doit être pour l'homme l'être suprême. Ça, c'est la Vulgate ecclésiastique. C'est le discours des théologiens. Il a remplacé l'homme par Dieu. Bon, après tout ce que je viens de dire, c'est la sottise de ce discours. Enfin, on l'entend encore parmi d'éminents théologiens. Dieu ne dit pas que l'homme doit être pour l'homme l'être suprême. Il ne fait pas descendre l'absolu du ciel sur la terre. Il ne cherche pas à intérioriser seulement le Dieu des Juifs et des chrétiens. Nietzsche remplace la pensée monolithique de l'absolu par la pensée pluraliste des valeurs et de leur hiérarchie. Nietzsche veut délivrer la pensée du fantôme de l'être suprême et du mirage sans cesse renaissant d'un absolu toujours théologique, même lorsqu'il est anthropologique. En ce sens, entre guillemets, l'athéisme de Nietzsche est tout autre chose que cet athéisme qui est le devenir du christianisme, et Dionysos est le nom qui symbolise la quête d'un dieu non vengeur et d'une divinité au pied léger. Voilà. Alors, par certains côtés, et je termine simplement par deux questions, je crois que Nietzsche a au moins cet intérêt de nous faire découvrir que ce qu'il appelle l'instinct religieux, même après la mort de Dieu, n'a pas disparu et ne disparaîtra pas. Pas beaucoup de sociologues, d'historiens sont étonnés de ce qu'on appelait le retour du religieux, en disant que c'est pas possible, on avait prévu la sécularisation, la disparition des églises et de la religion, et tout d'un coup, c'est pas ce qui se passe. Évidemment, si vous n'avez lu que Marx ou Feuerbach, on ne peut être que surpris. Si on lit Nietzsche, je crois qu'il voit très bien la possibilité d'un religieux qui peut être sauvage, redoutable, nihiliste, là, c'est sûr. Mais, justement, qui, après la mort des religions monothéistes, peut ressurgir de manière sauvage. Et je crois que ça jette quelques lumières quand même sur nos problèmes, même si ça ne donne pas des clés absolument satisfaisantes. Bon, ma dernière question, qui est peut-être, à mes yeux, la question essentielle, et qui est une interrogation, on voit très bien que, tel que je la comprends, la philosophie nietzschéenne se dresse tout entière contre la tentation de l'homme de capter le divin, d'enfermer l'infini dans le fini, de se donner des certitudes auxquelles on s'accroche par lassitude, par faiblesse, etc. Je crois qu'on peut tout à fait admettre ça. Simplement, est-ce qu'on peut rentrer jusqu'au bout dans la philosophie qu'il propose? Et je dirais pas seulement la philosophie au sens théorique du terme, je dirais dans l'attitude existentielle. Parce qu'il creuse à ce point la distance entre l'infini et le fini que, comme vous l'avez vu dans les textes que j'ai lus tout à l'heure, le fini ne peut que sombrer dans l'affirmation de l'infini. Quand il dit, n'est-ce pas, cette affirmation, ces moments d'extase sont tels qu'on ne pourrait qu'en éclater. La carapace humaine ne tiendrait pas. Autrement dit encore, est-ce que cette belle perspective, je crois tout à fait originale, est vivable jusqu'au bout, sans que l'individu n'en éclate? Alors, c'est là que nous retrouvons peut-être, enfin pour moi c'est l'objection, c'est-à-dire est-ce que Nietzsche n'est pas victime de sa propre pente, au point même d'en arriver à la folie, parce que c'est un homme qui s'est usé dans ce... Il faut surtout ne rien capter, il faut surtout rester toujours dans une... Est-ce qu'il ne se dit pas lui-même, finalement, détruit sous cette espèce de travail indéfini? Et il me semble que, justement, ce que dit le christianisme, c'est précisément que cet infini ne perd rien de son infinité quand il se fait fini. Ben, c'est la nativité. C'est ce que disait le grand Hegel, n'est-ce pas, ou ce que disaient les Angelus Silesius. La transcendance du divin, c'est d'être capable de s'identifier au plus petit. Que le plus haut s'identifie au plus petit. Ça, c'est proprement divin. Alors, c'est sûr que Nietzsche refuse ce point de vue. Mais est-ce que c'est pas ce seul point de vue qui permet à la fois de maintenir la finitude, à laquelle nous sommes quand même pris, pas prisonniers, mais pris, et l'ouverture à l'infini. C'est dans la finitude même que nous pouvons nous ouvrir à l'infini, parce que l'infini lui-même se signifie dans la finitude. Voilà une petite question. Alors, est-ce que nous passons aux questions tout de suite, ou est-ce que sur ce que je viens de dire, vous auriez des... sur ce... Ben, le génie du cœur, le Dieu qui vient vous visiter, gratuitement, je crois que ça se réfère à vos expériences dans les autres textes que j'ai lus par eux. Bon, c'est tout à fait étrange, mais fait, voilà, c'est... qu'on peut appeler ce côté mystique, si on veut. Oui, c'est pas un dieu qu'on peut capter, mais c'est un dieu qui peut vous faire signe, en un sens, si l'on est disposé à. C'est l'histoire de la beauté. Si l'âme n'est pas, c'est un beau texte aussi du Gai Savoir. Si l'âme n'est pas disposée à voir la beauté, elle la verra pas. Oui.
Dans cette modulation du religieux, du divin. Il n'y a pas chez Nietzsche un élément culturel allemand, germanophone, très fort, dans le sens que, si l'on veut, c'est aussi, d'un certain côté au moins, la démarche d'une certaine théologie libérale, de l'histoire comparée des religions, disons, d'atteindre un peu l'inverse. Parce que je pense que dans l'histoire comparée des religions, il y a une démarche assez absolue, une visée absolue, mais il y a, je pense, un dépassement des religions instituées et des églises.
On pourrait peut-être dire ça, oui. En tout cas, sa démarche ne vient pas d'une perspective d'histoire des religions qui consiste à les épurer et à garder que la substantifique moelle. C'est pas du tout ça. Hein. Alors, on peut dire que c'est allemand parce qu'il y a peut-être un petit côté romantique. Ça, c'est possible, oui. Mais je ne crois pas qu'il faudrait faire de cet argument une dévalorisation de ce qu'il dit. Hein. On peut toujours situer et dire, en effet, c'est très germanique... Il se perd dans les forêts, donc il croit qu'il est... On peut toujours dire ça, oui, mais je crois que ça ne rend pas compte de ce que... Bien surtout, je crois que ça ne rendait pas compte de son originalité par rapport au discours entendu, ce qu'on tient sur lui. Parce que tout ce côté-là est quand même très largement gommé par la recherche universitaire. Hein. C'est quand même vrai. Ou on le rabat du côté des Grecs en disant, ben oui, c'est ça, il veut revenir à Eleusis, il veut revenir à Delphes, etc. Bon... Donc c'est une affaire entendue, ou bien on n'en parle pas. Oui.
Je pense à Simone Veil, ça vient de venir à l'instant, qui, cette idée qui aussi valorise les dieux grecs d'une certaine manière, comme précurseur du christianisme. Est-ce que c'est pas un petit peu cette même tendance presque une forme de comment d'affirmer la puissance de Dieu en sortant du cadre un peu étriqué, je pense, de leur religion quiétiste
ah oui.
Qui va aller en Allemagne.
Oui, ce que vous dites est intéressant, en effet, oui, on pourrait penser. Parce que Simone Weil, je crois, ne connaissait pas bien Nietzsche, hein, c'était la période avant-guerre, mais peut-être que son intuition rejoint celle de Nietzsche, en effet, sous cet angle. Et si elle a toujours été au bord du christianisme, elle n'a pas jamais voulu passer dedans, se convertir, disons, mais parce que elle, qui était quand même juive, et d'une famille juive reconnue, son frère et sa femme étaient vraiment juifs, ne pouvait pas supporter les juifs. Et en particulier, elle était à la limite de l'antisémitisme. Pour la raison un peu que vous dites, c'est-à-dire que sa grande idée, c'est-à-dire, mais quel est ce petit peuple de caravaniers dans le désert qui pense qu'ils sont les élus de Dieu, qu'il n'y a que qui compte. N'est-ce pas? Donc c'était l'idée de salut qu'elle n'acceptait pas. Elle l'a dit maintes fois. Et donc, elle était plus sensible au christianisme qui lui disait, qui dit, salut est offert à tout le monde. Mais cette racine juive, elle n'est même pas trop. Et de fait, comme vous dites, elle regardait beaucoup. Elle avait une connaissance absolument admirable des Grecs. Et pas seulement de la philosophie. Je lisais récemment des correspondances abondantes avec son frère André, qui était un mathématicien de grande valeur, et elle écrit des dizaines de pages sur les mathématiques grecques, que je suis incapable de comprendre, et lui répond aussi sur une dizaine de pages en lui disant « mais tu n'as pas compris ça », etc. Prodigieux. Bon, ça veut dire donc qu'elle avait une très grande admiration pour les Grecs, et en effet, elle était réticente à l'idée de salut par un peuple, quoi. Ça, c'est... Au point même que... Certains l'ont soupçonné de pas être loin d'une attitude de, pas d'élimination des juifs, mais enfin de mise à l'écart. Ces types qui se croient au-dessus, il faudrait quand même les, dans les années 38-39, elle a eu des textes un peu, qui font un peu froid dans le dos, quoi. Bon, moi, c'était une juive qui le disait, donc on peut tout lui pardonner. Mais vous avez raison, je crois qu'il y a un peu de ça, oui, oui, oui. Oui.
Il n'avait pas plutôt évoqué les philosophies orientales de Zen,
oui,
et de bouddhisme.
Oui, à travers, oui, l'hindouisme, je crois qu'il ne connaissait pas bien, hein. Non, même pas du tout. Mais le bouddhisme, il l'a connu à travers Schopenhauer, et il en parle assez souvent. Qu'est-ce qu'il connaissait du bouddhisme? Il en connaissait ce qu'on dit sur Schopenhauer. Donc c'était plutôt pour lui à peine une religion. Et une religion, si c'en est une, un peu de la fatigue. Il faut se détacher un peu, parce qu'il la lit à travers Schopenhauer, il faut se détacher du sensible, se rendre soi-même un pas vide devant les choses, etc., ou avoir pitié de l'univers. Il en parle, ça, mais c'est pas de manière très positive non plus. Oui, parce qu'il le voit... Parce que la... Les Allemands ont beaucoup travaillé l'orientalisme, hein, donc je crois que c'est pas... Sur l'hindouisme, je crois pas qu'il... S'il admire quand même un peu, oui, dans les textes posthumes, c'est un peu fou, parce qu'il oppose le Lévitique avec les... Comment ils appellent ça? Les règles, vous savez, infinies des hindouistes, et il donne le sentiment d'admirer cet encadrement de toute la... Je crois que c'est un peu une plaisanterie, mais... C'est une connaissance scolaire, en tout cas, à l'université.
Si je vous ai bien suivi, ce qui reste de divin chez Nietzsche, ça s'éprouve plus que ça se comprend. Donc, est-ce qu'on peut dire que Nietzsche considérait que le divin n'était pas à comprendre et que la raison n'avait pas sa place dans la,
oui, vous avez,
dans la pensée,
oui,
du divin?
Oui. Oui, n'empêche qu'il y a quand même une attitude, intellectuelle, parce qu'il faut quand même évacuer toutes les fausses idées qu'on peut se faire du divin. Donc il y a un travail de la raison sur elle-même, ou plus exactement de la volonté sur elle-même, pour ne pas être tenté de capter ce divin. Donc il y a bien un travail de wissenschaftlich, de gai savoir, pour éviter les pièges d'une volonté de croyance qui capterait le divin. Mais le divin lui-même, il reste incompréhensible, ça c'est sûr. De ce point de vue-là, on a une espèce de philosophie apophatique, on ne peut rien en dire d'autre que quelques aperçus. Dans cette ligne, il n'est pas tellement éloigné de certains mystiques rénants. Hein, de Dieu, on ne peut rien dire. Dès que vous cherchez à faire main basse, de dire il est ceci ou cela, là, vous êtes déjà vous avez déjà trahi, quoi. Il y a un peu de ça chez lui, hein, cette espèce de radicalisme qu'on trouverait chez Maître Eckhart, chez les autres qui connaissaient un peu. On dit souvent qu'ils connaissaient tout ça, je crois que c'est pas vrai. Mais il y a un peu de ça, ce radicalisme qu'on trouve dans la tradition chrétienne. Hein, je dirais même chez tous les mystiques. Les mystiques se méfient comme de la peste, justement, de Thérèse d'Avila, les extases et tout ça. C'est ce qu'on retient d'eux, mais en fait, eux sont méfiés comme de la peste. Parce que est-ce que c'est pas moi qui recherche mon plaisir? Est-ce que c'est pas moi qui me... qui me fait des imaginations, Dieu est au-delà de tout ce que... c'est pas parce que j'ai la joie à un moment que Dieu est là, c'est peut-être moi qui me fait des idées. Bon, c'est un peu dans cette ligne, je crois, qu'il retrouve ça d'un point de vue philosophique, c'est un divin dont on ne peut rien dire, mais la démarche pour n'en rien dire n'est pas irrationnelle, voilà, si je réponds à votre question, je crois que c'est pas... On peut comprendre pourquoi il ne faut pas mettre la main dessus. Et ça, c'est un travail. Il est quand même philosophe, hein. Les dieux philosophes, quand ils parlent de Dionysos, c'est un dieu philosophe. Donc c'est pas un dieu de l'irrationnel, c'est un dieu, si on s'y ouvre, qui peut vous donner la joie, hein, le texte que j'ai lu tout à l'heure, comme étonnant. Bon, on va peut-être faire une, même sûrement faire une petite pause avant de reprendre les discussions, parce qu'il y a plusieurs questions intéressantes, et puis vous en aurez sûrement d'autres. On s'arrête donc 10 minutes. Alors pensez à la feuille verte si vous n'avez pas prise. Ah oui, qui était derrière. Voilà, on va recommencer pour notre discussion. Merci bien. Alors, merci à ceux qui ont posé des questions par écrit. Ça m'a permis de préparer un petit peu. Mais je suppose qu'il y en aura d'autres. Alors, peut-être une première question, plus historique, disons. Comment Nietzsche est-il devenu célèbre ? Qui a fait connaître sa pensée ? Comment a-t-il atteint sa célébrité actuelle ? Malgré les éléments adverses de son de sa biographie. Donc, pourquoi au fond Nietzsche est-il si connu? Il y a évidemment quelque chose de bizarre, puisque c'est un homme qui, de son vivant, n'a pas été connu, il n'avait pas de chaire d'enseignement, il était tout à fait isolé et solitaire, ses livres n'avaient aucun succès. Bon, alors je crois qu'il faut quand même s'apercevoir que il a été assez vite, sa pensée assez vite répandue, mais de manière, je dirais pas clandestine, mais un peu discrète. Je voudrais quand même signaler, sans vouloir tirer la couverture de mon côté, que un des premiers articles, sinon le premier publié en France, a été dans la revue Études, par le père Léonce de Grandmaison, du vivant même de Nietzsche, en 1898. Je crois que c'est un des premiers articles en français. Le père Léonce de Grandmaison, qui était longtemps directeur de cette revue, fait un article sur la religion de Nietzsche, justement. La religion chez Nietzsche. Où il dit, en gros, j'ai pas lu depuis longtemps, c'est un auteur qu'il faut regarder de près parce qu'il pose un certain nombre de questions intéressantes qu'il faudrait, auxquelles il faudrait être attentif. Alors, je dirais, il s'est donc fait connaître, mais d'abord comme poète, comme, moraliste, immoraliste, il était un peu récupéré par Gide, avec l'idée de la vie, de la vitalité, de la jouissance, enfin tout ce genre de choses. Mais ça n'a pas été vraiment au-delà, je dirais, il n'a pas été pris au sérieux par les philosophes. Il l'a été après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 60-70. Et nous le devons à Heidegger. Heidegger, en effet, a fait des séminaires sur Nietzsche entre les années sombres de l'Allemagne, 34-40. Alors, pour quelle raison, on pourrait y revenir, si vous voulez, tout à l'heure. Il a fait un séminaire, donc vous savez, il a adhéré au nazisme, il a été recteur une année, puis il a pris ses distances, et donc il s'est rabattu sur Nietzsche, et il a fait ses séminaires pendant plusieurs années. Et il les a publiés après la Seconde Guerre mondiale, donc en Allemagne dans les années 60, deux gros volumes, qui ont été traduits en français en 70. Très beau texte, qui a d'ailleurs donné aussi un grand prestige à Heidegger et un peu effacé le visage sombre qu'on lui redonne aujourd'hui. Alors, pourquoi finalement ce texte a tellement pris ? Alors, je crois qu'il faut bien se rendre compte du climat français dans les années 60-70, qui était dominé notamment par le marxisme. Et un certain nombre de jeunes normaliens, dont Jean-Luc Marion et toute cette équipe, évidemment, subissaient avec difficulté cette chape de plomb marxiste. parce que par rapport à Marx, notre horizon indépassable, comme disait Sartre, tous ceux qui n'étaient pas marxistes passaient pour des demeurés, enfin, des gens qui n'avaient aucune... Bon. Or, ces gens-là ont trouvé, à la lecture de Heidegger d'un côté, et à la lecture de Nietzsche de l'autre, je dirais, un ballon d'oxygène, si je peux dire. Ils ont trouvé là une grande philosophie, au moins telle que la présentait Heidegger, qui faisait quand même le poids par rapport au marxisme. Et donc, sans devenir eux-mêmes nietzschéens, ce qui est évidemment impossible, ils ont trouvé à travers la conjonction Heidegger-Nietzsche, je dirais, un courant de pensée qui leur a permis de ne pas être docilement et bêtement marxiste comme la plupart des autres. Alors je crois que c'est un... Bon, il faudrait signaler ici les ouvrages de Jean Beaufret, B-E-A-U-2-F-R-E-T, qui a connu très bien Heidegger, qui a publié des textes sur Heidegger, qui a été un de ceux qui a fait connaître Heidegger, en laissant de côté le côté nazifiant de Heidegger. Bon, donc je crois que c'était une des sources de... Et alors évidemment, après l'effondrement du marxisme, enfin l'effondrement entre guillemets, on voit bien que Nietzsche est devenu des sources importantes de la pensée. Alors, pour quelle raison Heidegger lui a-t-il donné ce lustre? Ben, je dirais que le grand mérite de Heidegger, quelles que soient les limites de son interprétation, c'est qu'il a fait de Nietzsche un grand métaphysicien. La thèse, c'est l'antiplatonisme de Nietzsche. Donc, il a élevé Nietzsche, si je puis dire, au niveau de Platon, en gros. C'est-à-dire, il a dit, attention, c'est quand même quelqu'un qui, peut-être pas pour la première fois, mais enfin, s'est affronté à la métaphysique dualiste et a cherché à la surmonter. Donc, à partir du moment où on dit, mais on a affaire à quelqu'un qui est de la taille de Platon, évidemment, tout de suite, les chapeaux se tirent et on se met plus ou moins à genoux. Bon, je crois que ça a beaucoup joué, et ça continue à jouer. Alors, évidemment, la position de Heidegger consiste à dire, oui, Nietzsche a voulu dépasser la métaphysique, mais bien entendu, il n'y a pas réussi, et d'où la nécessité du travail que je fais, moi, Heidegger, pour dépasser la métaphysique. Enfin, peu importe ce petit côté. Alors, je dirais, une des raisons du succès, en outre, c'est évidemment que c'est quand même une philosophie qui donne l'impression qu'on peut la comprendre aisément. Et donc que n'importe qui peut acheter dans un hall de gare le Gai Savoir ou le Crépuscule des Idoles et penser qu'il fait de la philosophie en le lisant. Évidemment, ce qui n'est pas le cas quand on lit Heidegger, parce qu'on voit tout de suite que c'est un peu plus compliqué. Là, on a l'impression qu'on comprend, ce qui est évidemment tout à fait illusoire. Mais je crois qu'une des raisons du succès de Nietzsche, c'est aussi une mauvaise raison, c'est qu'on peut se donner l'illusion de le... Et on l'interprète évidemment dans tous les sens. Voilà, donc c'est une philosophie qui, je crois, hors technicité, elle est réelle, mais enfin, on la voit pas toujours, peut parler à n'importe qui. Donc, voilà, je crois que c'est... Et puis, comme il y a le côté plus que féroce, on comprend que des jeunes, des adolescents soient touchés par cette pensée. Est-ce que je réponds? C'est M. Kaplan qui a posé la question. Oui, c'est vous. Oui. 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 Alors, il n'y a pas que la France, hein, parce que maintenant... il est très lu au Japon et aux États-Unis. Il y a une nouvelle revue, les New Nietzsche Studies, qui sont éditées à New York par Fordham, je crois. C'est une femme qui est à la tête de ça, Madame Babbitt, qui est une excellente revue. Alors vraiment, il est passé au niveau universitaire, si vous voulez. C'est vraiment des textes en général de grande valeur. Comme toujours dans une revue, c'est inégal, mais c'est quand même une très belle revue. Il y en avait une en allemand, Nietzsche Studien, je crois, qui a arrêté de fonctionner. Mais ça veut dire qu'il est lu aux États-Unis à la mode américaine, mais sérieuse, au moins dans le cas de Madame Babbitt. Pas toujours, parce qu'il a été véhiculé par la mode de la soi-disant école française, Derrida, Foucault, quel est l'autre, Lyotard, etc. Enfin, là, cette revue est très sérieuse, certainement. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent. Et même en français, il y a toujours des livres qui paraissent sérieusement. Bon, en même temps, on a vite fait le tour. Je sais pas, on ne peut pas renouveler éternellement. Je crois qu'il y a eu cette grande poussée de publications en France dans les années 70. Et aujourd'hui, évidemment, ça retombe un petit peu. Alors, peut-être dans la même ligne, je sais pas... Quelqu'un demande... Bah écoutez, je vais lire le texte en entier. Freud, Marx et Nietzsche ont marqué leur époque au moment où il y avait des changements culturels majeurs. Ils ont pu marquer profondément l'avenir et ont même inspiré le nazisme, le stalinisme, le marxisme et même la psychanalyse. Actuellement, il y a une recherche d'adaptation au monde moderne. Y a-t-il des philosophes, des économistes, des scientifiques capables d'orienter le monde comme ils l'ont fait? Bon, je suis pas sûr qu'ils ont voulu orienter le monde, hein. Vous voyez bien, Nietzsche est un type solitaire, il a pensé pour lui-même. C'est un peu différent, évidemment, de Marx qui était branché sur le mouvement ouvrier, les syndicats, qu'il a essayé de... Freud, ben, il travaillait dans son coin. Il avait conscience quand même puisque ce qu'il apportait, puisque dit-on, quand il a débarqué à New York sur le bateau en voyant arriver le quai, il a dit à son copain, ils ne savent pas la peste que nous leur apportons. Ces pauvres Américains. Bon, ils sont tombés dans le panneau. Alors, on peut dire, il y a sûrement un lien entre Marx et puis le marxisme-léninisme. Un lien d'ailleurs discuté, mais enfin, je crois réel. Dans le cas de Nietzsche, c'est pas du tout vrai. C'est pas lui qui a donné naissance au nazisme. Le nazisme est né de source tout autre. Et c'est ensuite que, grâce à la sœur, ou malgré la à cause de la sœur, les nazis en recherche d'honorabilité intellectuelle ont pensé à Nietzsche. Parce que le nazisme, si vous voulez, Mein Kampf, c'est quand même plutôt lamentable du point de vue intellectuel. Et donc, ils ont essayé de se donner, parce que le communisme avait pour lui, évidemment, Marx, Hegel derrière, tout ça, ça faisait sérieux. Donc, ils ont cherché un auteur qui soit valorisant, et ils ont pensé que Nietzsche marcherait. C'est la sœur qui a cherché à le... Ils ont même fait une édition officielle de Nietzsche, mais ils ont arrêté au bout de 4-5 volumes. Parce que, vous voyez bien, Nietzsche est un explosif. National-socialisme, il est aussi anti-allemand que c'est possible. Socialisme, alors, parlons pas. Donc, ils ont très bien vu que c'était pas possible. Puis, il dit du bien des Juifs, j'ai lu des textes. Donc, ça n'allait pas non plus. Donc, je crois que c'est une espèce d'astre irrécupérable. Donc, ils n'ont pas... Alors, de même, je crois que c'est après coup qu'on s'aperçoit que des pensées ont un effet sur les esprits. Alors, y en a-t-il aujourd'hui? Ben, y a quand même des gens qui réfléchissent. Peut-être ne peut-il plus y avoir des gens de cette taille, je ne sais pas, parce qu'on n'est plus dans une époque... Parce qu'on est quand même une société mondialisée, alors ce qui vaudrait... Là, c'était quand même l'Europe qui était un peu à la pointe du travail intellectuel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le tréfonds de la Chine ou de l'Amérique latine? Il y a peut-être des gens qui sont en train de découvrir des choses que nous ne découvrirons qu'après coup. Donc, je ne suis pas bien capable de répondre à la question, parce que je ne sais pas s'il y a... Il y a des gens qui travaillent, mais les circonstances culturelles sont tellement différentes de celles du 19e, 20e siècle, que je ne vois pas bien comment... C'est vous qui avez posé la question? Comment on pourrait surgir des gens comme ça?
Oui, il y a actuellement un tel changement sur le
plan justement
de la culture en général, des découvertes scientifiques, etc. qu'on peut se demander justement s'il n'y a pas obligatoirement des gens qui pensent à l'avenir de ce monde nouveau, comme Marx à l'époque, avec les ouvriers, etc. C'est la question.
Non, je les connais pas, hein. Je sais pas s'il y en a, peut-être qu'il faut pas souhaiter qu'il y en ait trop, parce que c'est quand même aussi des gens dangereux, et Marx, c'est une magnifique pensée, mais il y a eu quelques cadavres sur le pavé, et il y en a toujours, hein. Il y en a toujours, Corée du Nord, etc. Donc, oui.
C'est vrai qu'on ne le sait qu'après.
Oui.
Mais
je crois, oui.
La pensée a quand même fait bouche, c'est-à-dire...
Ah oui, oui, sûrement. Oui. Oui, mais peut-être qu'est-ce trop tôt pour que quelqu'un puisse avoir une pensée qui soit au niveau même des phénomènes que nous vivons. Mais j'en sais rien. Hein, par contre, je ne dirais pas qu'il y a aucune pensée vivante aujourd'hui, mais elles ne sont pas de cette dimension. Il y a des choses, si vous cherchez, vous trouvez des auteurs qui vous stimulent, qui... C'est pas nul ce qu'on fait... Je crois, contrairement à ce qu'on a tendance à dire, rien ne vaut. Jadis, il y avait des monstres sacrés. D'abord, on ne les lisait pas. Même Marx, il n'était pas très connu. Hein. Nietzsche n'a jamais entendu parler de Marx. Il est mort bien après. par exemple. Marx était connu par le monde ouvrier, les socialistes, un petit noyau, un peu poursuivi par la police, oui, ça c'est vrai. Donc, il y a des phénomènes intellectuels d'après-coup. Non, puis il y a aussi la possibilité de relire ses auteurs. Vous voyez, par exemple, Lacan par rapport à Freud. Ben, Lacan n'est pas Freud, mais il a quand même eu, pourtant je le sache, dans le domaine de la psychanalyse, un poids considérable. Et il est lu, commenté en Amérique latine et ailleurs. Donc je crois que c'est aussi ça, c'est des gens comme pour Marx. Quoi. Pour le moment, il est un peu au purgatoire, le pauvre homme. Mais bonjour, on va redire, mais peut-être quand même... l'exploitation aujourd'hui du travailleur n'est plus celle qu'on connaissait dans les aciéries, dans les mines, mais peut-être que l'exploitation que les gens connaissent dans les tours de la défense n'est pas moins redoutable. Parce que les types, c'est le burn-out, c'est le type qui déprime. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est une autre forme d'exploitation qui attend peut-être son théoricien. Bon, alors, d'autres questions si... Voilà, plus précise, que veut dire, que désigne le mot homines religiosi, que nous avons trouvé dans le texte hein, l'autre jour. Franchement, je ne sais pas bien, parce que Nietzsche a ces mots comme ça, par exemple, dans la généalogie de la morale, vous tombez tout d'un coup sur les prêtres ascétiques. Alors on se dit, mais qui c'est ces prêtres ascétiques? Est-ce que c'est des chartreux qui se flagellent à longueur de journée et de nuit? Est-ce que c'est des... Bon, et on s'aperçoit que prêtres ascétiques, c'est pas nécessairement des curés, c'est il y a tous ceux qui donnent sens à la souffrance, à ce qui n'en a pas. On pourrait dire les idéologues, prêtres ascétiques. Alors, j'ai homines religiosi, c'est ça, c'est-à-dire que, ben, vous avez vu, il y a toute une hiérarchie de prêtres ascétiques, les artistes en font partie, un certain nombre de philosophes. On pourrait dire que c'est tous ceux qui s'enferment dans une volonté de croyance et de certitude. Ben, ça veut dire que la catégorie des religion chez Nietzsche dépasse de beaucoup la catégorie des historiens des religions. Hein. Mais je ne peux pas bien répondre à ça. Au ministre religiosi, je ne sais pas d'où il l'a pris. Je vais chercher dans des commentaires savants. On trouverait sûrement des universitaires allemands, sans doute, qui ont écrit des centaines de pages là-dessus, mais je les ignore. Bon, alors, est-ce que je réponds? Je réponds pas, en fait, parce que je ne sais pas bien quoi répondre. Alors, une question un peu vaste, mais je crois tout à fait pertinente. Si, je vais peut-être pas tout lire, elle est longue. Si la quête de la vérité est une idolâtrie superstitieuse, alors l'homme ne peut avoir plus ou moins de jugement et donc n'est pas fondé ontologiquement la distinction maître-esclave. N'y a-t-il pas chez Nietzsche un manque de critique de l'idéalisme de Kant et une absence d'ouverture à la profondeur métaphysique et épistémologique du réalisme médiéval? Il n'analyse pas ontologiquement parce qu'il se ferme à la question de la vérité et de l'être comme clé. Alors, il me semble que là, dans cette question, on se trouve dans le clash, non pas des civilisations, mais des philosophies. Parce que la question que vous la posez dans la perspective du réalisme métaphysique, c'est-à-dire d'une ontologie, à la façon du thomisme. Je dirais, ça c'est une problématique qui a sa force, qui a sa pertinence. Ce n'est pas la problématique de Nietzsche. Et il me semble qu'en philosophie, il faut apprendre qu'il y a diverses problématiques. Moi, j'ai retenu ça du grand livre d'Eric Weil qui s'appelle « Logique de la philosophie », qui est un livre tout à fait considérable, lui aussi méconnu, malheureusement, et où il démontre très bien que chaque grande philosophie développe une problématique qui est irréductible à une autre. Et cette problématique, si elle est vraiment philosophique, elle est totale, c'est-à-dire qu'elle touche tous les problèmes, mais elle les voit sous un certain angle. Alors, le réalisme thomiste ou l'ontologie a une certaine conception de l'être des choses, de la hiérarchie des choses, de la morale, de Dieu, etc., de la vérité, je dirais, qui est cohérente avec la perspective dans laquelle il s'engage. Mais c'est, comme toujours, une perspective est aveugle sur d'autres. Et par exemple, l'ontologie thomiste a beaucoup de peine à intégrer la subjectivité moderne. La subjectivité moderne. Or, Nietzsche se situe quand même dans la problématique de la subjectivité moderne, du sujet, en tant qu'il cherche le sens ou qu'il s'égare, etc. Et il est très frappant que les thomistes, enfin, j'allais dire, lisez la revue Thomiste, c'est tout à fait affligeant, à la fois extrêmement intelligent, et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand vous lisez les comptes rendus de livres, alors, très savants, on cite saint Thomas, mais ils passent à côté. Parce qu'ils sont dans une autre perspective. Je ne dis pas que leur perspective est fausse ou ne vaut rien. C'est voilà, deux droites qui se rencontrent pas. J'ai vu ça à propos de Maritain, que j'aime bien par ailleurs. Quand Maritain parle de la philosophie moderne du sujet, il ne comprend rien. Il dit des choses fondamentales en matière de politique, de société, même par certains côtés de morale ou de science, dans l'art, dans l'éducation, des choses tout à fait. Mais quand il regarde Descartes, ou même Bergson, qui était son maître, qui l'a quand même converti au spirituel, c'est affligeant. Parce que c'est une autre perspective. Alors, vous dites, Nietzsche récuse la vérité. Non, il récuse une certaine forme de vérité. Mais dans Ecce Homo et bien d'autres textes, il nous dit on juge de la qualité d'un homme au poids de vérité qu'il est capable de porter. Donc ce n'est pas une récusation de la vérité. C'est de dire, comme je le disais l'autre jour, c'est pas la vérité pour lui, elle est tragique. Le fond des choses est tragique. Est-ce qu'on est capable de porter ça? Voilà son problème. Mais il ne nie pas qu'il y ait de la vérité. Simplement, son regard n'est pas le regard de l'ontologie. Alors, voilà. Si on veut juger de Nietzsche, comme d'ailleurs de saint Thomas, il faut, me semble-t-il, rentrer dans sa problématique et voir ce qu'elle éclaire et puis ce qu'elle n'éclaire pas, en quoi elle est trop courte. Et j'ai dit tout à l'heure, en terminant, à mon avis, le problème de Nietzsche est quand même ce rapport trop décalé entre le fini et l'infini, qui fait que le fini final risque d'éclater d'une espèce d'acharnement contre soi-même dans son ouverture à l'infini. Bon, c'est une critique qu'on peut ne pas admettre. Mais donc, moi, je ne dirais pas qu'il a un point de vue trop court. On peut évidemment discuter ce qu'il dit de la volonté, etc. Mais il ne récuse pas la vérité, hein, pas plus qu'il ne récuse la morale. Ah, Dieu sait. Mais quelle morale? Quelle vérité? C'est ça le problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je crois qu'il faut bien voir qu'il y a des problématiques qui sont cohérente avec elle-même et qui ont de la... C'est sous le problème du dialogue entre philosophes, en général, ils ne se comprennent pas. C'est frappant. Ils ne se comprennent pas. Enfin, ils se comprennent partiellement, mais... Parce qu'il y a des points de vue... Et là, je crois que Nietzsche a raison, il y a des perspectives qui ne sont pas nécessairement fausses, mais qui sont partielles, ou qui prennent un point de vue, qui voient les choses sous un certain angle, si c'est des philosophies fortes. Cet angle de vue nous ouvre sur un espace immense. C'est des philosophies faibles et ridicules, évidemment, elles resteront tatinées. Mais à la limite, il y a une incompréhension entre elles. Si bien qu'on ne peut pas faire un cocktail de toutes ces philosophies. Prendre un petit peu de Nietzsche, un petit peu de Marx, en faire un... Ça, c'est... Est-ce que je... Voilà ce que je peux dire sur ce sujet immense, hein, de difficulté de se comprendre, ça c'est sûr. Mais si on n'a pas cette perspective, je crois qu'on... À nouveau, ça veut dire que c'est pas que Marx se trompe, il peut se tromper sur certains points, c'est qu'il regarde la société sous un certain angle qui n'est pas celui de Nietzsche. Donc il ne faut pas dire on va faire un peu de Marx et on va mélanger le tout et on aura la vérité. Mais non, ça ne marche pas ça. Ce qu'il faut, c'est que si on est marxisant, de l'intérieur de Marx, dire voilà ce qui en quoi il nous éclaire, en quoi, là, il a un point aveugle, qui tient à sa culture, à son histoire, et peut-être à la perspective un peu trop étroite dans laquelle il est les choses. Alors, ça me conduit peut-être à une autre question non moins intéressante. En quoi la pensée de Nietzsche, surtout la mort de Dieu, devrait-elle intéresser l'Église actuelle? Et le chrétien, que peut penser un catholique de sa vision de saint Paul? Bon, je mets cette question tout de suite parce que, évidemment, en quoi il peut intéresser l'Église, c'est qui l'Église, je ne sais pas, des gens dans l'Église. Moi, je dirais, personne n'est obligé de s'intéresser à Nietzsche. Hein. Je veux dire, on peut vivre sans avoir lu Nietzsche, donc l'Église peut survivre sans avoir lu Nietzsche. Ne tombons pas dans le défaut que je viens de dire, il faudrait qu'on intègre le marxisme, comme certains chrétiens marxistes l'ont fait il y a quelques années, en faisant une espèce de petit cocktail, d'ailleurs inconsistant. Non, il ne s'agit pas de dire on va saupoudrer d'un peu de nietzschéisme la théologie chrétienne. Ça, je crois que ça n'a pas de sens. Mais, alors, ceci dit, je crois que les chrétiens, et j'ai un peu passé une partie de ma vie à ça, peuvent chercher à entendre ce qu'il a à nous dire. Et du dedans, nous-mêmes, il ne s'agit pas de se convertir à Nietzsche, ce qui n'a, à mon avis, pas de sens. Mais je peux entendre Nietzsche et il peut me permettre de me déplacer, de me transformer moi-même, de faire en sorte qu'il y a des choses que je ne pourrais plus dire comme je les aurais, ou les penser comme je les aurais pensé avant. Je crois que c'est ça, si vous voulez. C'est ce qu'il appelle l'amitié. L'amitié, on se cogne quelquefois. On a besoin d'amis qui vous disent « tu déconnes ». Parce que ça vous permet de bouger. Si on a toujours un ami qui dit « tu es parfait », comme en amour d'ailleurs, « si tu es parfait, tu es la plus belle », ça va pas. Il faut que de temps en temps, je dis pas, il faut passer son temps à se cogner. Mais l'ami, c'est aussi l'ennemi, comme il dit très bien. Donc je crois que c'est un auteur inconfortable, mais qui nous permet de bouger. Par exemple, moi je crois qu'il, enfin pour ma part, par exemple, il m'a mis en garde contre la possibilité d'annoncer une mauvaise nouvelle aux gens, alors qu'on croit en annoncer une bonne. C'est-à-dire qu'il m'a, enfin j'essaie d'entendre chez lui, il y a une façon de parler de la foi qui tue la foi, qui détourne de la foi. Par exemple, cette foi ou cette théologie qui enfonce l'homme, hein, bienheureuse faute, il faut d'abord vous enfoncer dans votre péché, dans votre finitude, dans votre bassesse pour pouvoir vous sauver. Bienheureux sauveur qui... Il faut commencer par rabaisser pour monter. Ça, je trouve ça, il a raison de dire non. Enfin, moi j'entends que c'est non. De même, une survalorisation dans cette ligne de la culpabilité, ou même de la croix. Je crois qu'il a raison. Il y a des choses qu'il faut faire attention qu'avec la meilleure bonne volonté du monde, on ne dise des choses qui détournent de la foi. Moi, c'est ce que j'apprends de lui. C'est ça, c'est que, on croit qu'on... Par exemple, certaines façons de parler de la vérité, aussi. Comme si la vérité, le magistère l'avait, la sénait, pouvait la dire, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vérité? Ça, c'est mon point de vue, en tout cas. Je dis pas qu'il faut renoncer à la vérité, mais la vérité, c'est un chemin, on la cherche, on tâtonne, on l'atteint, elle vous échappe. Puis ça dépend des domaines, évidemment, la vérité en histoire, en mathématiques, c'est pas la même chose dans la relation humaine. Et c'est pas la même chose qu'en matière religieuse. Mais là encore, prudence, à dire, voilà, ça veut pas dire qu'il faut rien dire, mais, je sais pas s'il me fait comprendre. On peut pas être nietzschéen, mais on peut entendre des choses qui vous déplacent, voilà. Et évidemment, ça dépend de chacun. Parce que je crois, un des intérêts de Nietzsche, c'est que on ne l'entend pas tous de la même façon. Qu'on le redécouvre autrement. Parce que justement, c'est pas une pensée de système, il vous interpelle, et donc cette interpellation, on peut la vivre autrement, selon les cas. Alors, moi je crois qu'il peut intéresser l'Église, parce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple sur le divin, ne pas s'imaginer que ça n'a pas de sens de parler de Dieu et du divin à nos contemporains. Mais ça passe peut-être par d'autres chemins que la pratique. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans recherche du divin. Hier soir, une petite confidence, j'étais à l'église Saint-Sulpice où il y avait une soirée de musique, de France Musique, organisée par France Musique. Très beau concert, et on faisait chanter les gens sur le divin enfant, etc. Et j'avais à côté de moi un jeune homme, tout à fait punk, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Je suis là, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis tout d'un coup, le type a dit, nous allons chanter tous ensemble avec l'orgue, enfin c'était prévu dans le programme, il est né le divin enfant. Si vous regardez les paroles, elles sont stupides, mais enfin bon. Eh bien ce brave homme a chanté à plein poumon. Et à la fin, il m'a dit, c'est vraiment sympa de chanter tous ensemble. Alors peut-être qu'il a fait entraîner par la foule. Mais je me suis dit, tiens, j'aurais jamais pensé que ce type, il allait chanter de divin enfant. Tout cela. Bon, qu'est-ce qu'il faut en tirer, je ne sais pas. Mais méfions-nous des apparences, justement. Voilà, donc je ne pense pas que l'Église doive faire son allergamento au contact de Nietzsche. Il peut être utile. On l'entend pas aisément, ça c'est sûr. À l'intérieur de l'Église catholique, on n'entend pas aisément. Qui l'entend d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que pour cette première partie de la question, Monsieur Denis Lebègue, oui, c'est vous. On n'est pas obligé de lire Nietzsche, hein, je ne suis pas...
Un jour, vous avez dit que vous étiez, lorsque vous étiez des études jeunes,
oui.
Vous aviez été chargé par les jésuites d'approcher Nietzsche. Et
oui.
Vous demandez au fond quel était l'objectif.
Ah, la raison. Ah, eh bien, écoutez, c'est très simple, parce que quand j'ai fait mes études de philosophie comme jésuite à Chantilly, nous étions plutôt hegeliens. C'est-à-dire que nous lisions Kant, Hegel, Heidegger, tous ces gens-là, qu'on ne lisait pas en Sorbonne. Parce que je suivais des cours en Sorbonne au même moment. Ils en étaient à Malebranche et à... Vous comprenez ? Non, mais je vous dis ça parce que le discours entendu, c'est que dans l'Église, on est toujours en retard, mais que l'université... Moi, j'ai eu l'expérience exactement contraire. Et il nous coinçait à l'oral en nous interrogeant sur Hegel, parce que évidemment personne n'en parlait à ce moment-là. Après, ils sont basculés dans le marxisme de manière absolument stupide. Mais nous, on étudiait ces auteurs-là. On étudiait Heidegger à Chantilly. On disait, oh, l'Église est toujours en retard. Ah bon? Alors, je reviens à votre question. Donc, on était plutôt hegeliens et Nietzsche était totalement inconnu. Jamais j'ai entendu parler une seule fois de Nietzsche. Et puis, il s'est trouvé que j'ai fait un diplôme d'études supérieures sur Hegel. Et qu'il y avait un oral à ce moment-là, Monsieur Maldinet, qui est mort l'an dernier à 100 ans, m'a imposé la lecture de la généalogie de la morale. J'ai acheté ça dans un kiosque de gare en Allemagne, et j'ai lu ça avec stupeur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Et ensuite, quand il s'est agi de se lancer dans notre travail de thèse, c'était les années 67-68, on s'est dit, mais quand même, Nietzsche est un auteur beaucoup lu, beaucoup travaillé, c'est quand même un peu intéressant, quelqu'un le regarde quand même, qu'on ne reste pas simplement à Hegel et Marx. Donc c'est comme ça que je suis... Et je n'ai jamais regretté, parce que c'est un auteur qui, au début, vous agace par ses outrances, etc., puis finalement, on découvre un penseur profond et un homme aussi, un homme douloureux. C'est toujours ça qui m'a frappé, et qui, pour un chrétien, je crois à nouveau, est quand même très intéressant. Ah oui. Encore une fois, il ne s'agit pas de devenir un Nietzschéen, parce que ça, c'est impossible, ça n'a aucun sens. Il y avait un petit groupe, il y a quelques années, dans les années 80, qui a voulu faire un petit groupe, ça a volé en éclats, parce que, comprenez, vous réunissez quatre soi-disant Nietzschéens, ils se volent dans les plumes au bout de trois quarts d'heure. Parce que... voilà, bon,
c'est... comprendre la cohérence de sa pensée.
Si vous voulez, oui.
Ça
peut être que ça. Oui. Ben, c'est pour ça que je pense que, mais c'est vrai pour tout auteur, l'intérêt d'un auteur ou de la philosophie, c'est d'essayer de penser un auteur selon sa meilleure pente, selon sa plus grande pente. Parce que c'est tellement clair que chez Nietzsche, on peut toujours trouver des sottises à toutes les pages. On peut dire, oui, il se contredit, c'est pas... Pof. Mais vous, c'est vrai pour tout n'importe quel auteur. Il faut chercher à le lire dans sa plus grande force. Et vous apercevez que certains auteurs ne résistent pas à cette... Hein, parce que vous avez des gens qu'on met en avant qui n'ont aucun contenu. Mais quand vous avez affaire à un grand auteur, vous apercevez que derrière les apparences de contradiction, vous avez un fil rouge. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Et je dirais, c'est ça qui vous enrichit, si vous voulez. Si vous ne lisez que des gens dont vous dites c'est des imbéciles, ils n'ont rien compris à rien, ben alors passez à autre chose. Mais si vous le prenez au sérieux, il va vous transformer, il va vous aider à voir plus loin. C'est ça que je trouve intéressant dans la philosophie. C'est pas une collection d'idées, c'est de rencontrer des gens qui ont pris au sérieux quand même ce qu'il en est de vivre en homme, de comprendre son existence humaine. Alors encore une fois, ils n'ont pas tous compris de la même façon, parce qu'ils n'étaient pas à la même époque, parce qu'ils n'avaient pas le même tempérament, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes visées. Et donc, je dirais pas plus qu'on peut être Nietzschéen, on peut être spinoziste. Mais Spinoza, c'est quand même quelque chose. Mais si on passe tout de suite en disant « Oh, ce pauvre type, il a envoyé balader les Écritures. » Ben, bon, faites autre chose, alors. Pas obligé. Mais c'est vrai aussi de la théologie. Si on lit, je ne sais pas qui, moi, Rainer ou un autre, il faut prendre selon sa plus grande pente. Ça ne veut pas dire qu'on est des bénis oui-oui. Alors, vous posez aussi l'autre question, que peut penser un catholique de sa vision de saint Paul? Bon, alors c'est là, je dirais que Nietzsche est évidemment marqué par l'exégèse de son temps, exégèse libérale, David Friedrich Strauss en particulier, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus rentrer dans les perspectives qui étaient les siennes, parce que l'exégèse a beaucoup changé. Je ne dis pas qu'elle a fait des progrès, ce qui serait idiot, mais... Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas dire il y avait d'abord les évangiles et puis ensuite il y a eu saint Paul, puisqu'on sait que c'est plutôt saint Paul, les écrits de saint Paul qui sont premiers, et que vraisemblablement saint Paul n'a jamais lu les évangiles. Bon, déjà ça, c'est quand même un petit changement. Et puis, saint Paul, il n'y a pas un saint Paul. Maintenant, tous les exégètes vous diront, mais attention, il y a un corpus paulinien qui est fait de... Le saint Paul, si c'est saint Paul de l'épître aux Hébreux, n'est pas celui de l'épître aux Romains. Donc comment parler d'un saint Paul? Déjà ça, je crois que c'est pas possible. Alors, de ce point de vue-là, mais on pourrait dire la même chose du Jésus de Nietzsche. Qu'est-ce qui va tenir l'idée que Jésus est une espèce de naïf qui est passé avec une fleur à la main à travers les chaos du monde, n'est-ce pas, gentiment, disant aux gens, il faut dire oui, il faut pas faire de procès. Ça, c'est le Jésus de Tolstoï. De même, qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui, comme Nietzsche le dit, il échappe complètement au judaïsme. Aujourd'hui, on dit plutôt le contraire. On dit il est juif jusqu'à la moelle. Bon. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'est-ce que ça nous dit de Nietzsche lui-même? Évidemment, personne ne va chercher chez Nietzsche la lecture correcte de saint Paul ou de Jésus. Mais on peut entendre, à travers ce qu'il dit de saint Paul et de Jésus, quelque chose de Nietzsche lui-même. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc il peut s'être trompé, il se trompe. Enfin, je veux dire, c'est pas trompé. Il a adhéré à l'exégèse de son temps, mais ça nous dit quelque chose de lui. Par exemple, le fait qu'il soit sensible au oui de Jésus et qu'il s'y retrouve, ça c'est très intéressant. Mais c'est un oui incomplet, c'est un oui naïf, mais c'est quand même un oui. Donc c'est un grand. Et il a toujours dit que Jésus était à la fois un naïf et un grand. Ça, c'est intéressant, quand même. Voilà. Bon, je crois que c'est toutes les questions écrites. Oui, vas-y.
Est-ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la croisée de pensées qui sont pas toujours, et notamment en mettant en avant toute une pensée du sujet dans l'époque moderne qui s'est développée, est-ce qu'on pourrait dire que Nietzsche arrive un peu à l'apogée de la pensée d'un subjectivisme et où justement ça se dévoile quand on se rend compte que d'ailleurs quand on ne lit pas tous Nietzsche de la même façon et que après lui finalement c'est des pensées beaucoup plus communautaristes qui vont se développer, peut-être avec Marx mais pas seulement, et qu'on est là un peu à un sommet de cette pensée de la conscience de soi, oui. De l'individu, de la conquête de soi même.
Oui, je crois qu'on pourrait dire ce que vous dites. Certainement il s'inscrit dans cette ligne de la subjectivité, mais il en marque par certains côtés un tournant. Parce que il faut jamais oublier qu'on n'est pas loin de Freud. Et ce qu'il découvre, sans avoir la technicité de Freud, c'est quand même combien le sujet est assiégé de pulsions qu'il ne maîtrise pas. Donc c'est là qu'on peut défendre la thèse de Nietzsche qui s'oppose à l'idée de sujet. Je crois qu'elle est fausse, mais ce qu'il y a de vrai, me semble-t-il, c'est que Nietzsche voit bien que le sujet n'a pas cette puissance presque souveraine que certains philosophes, peut-être Descartes, lui ont attribué, et que le sujet est lui-même toujours en difficulté, jamais sûr de lui-même, etc., ce qui ouvre la voie de Freud. Hein, donc oui, je crois qu'on pourrait dire ça. Il est dans cette ligne, mais il s'aperçoit, remarquez, les moralistes français l'avaient déjà un peu vu, hein, que le sujet n'a pas la force et la souveraineté qu'on lui a toujours donné. Je ne crois pas qu'il faille aller jusqu'à dire c'est avec lui la mort du sujet. Non, mais c'est un sujet barré, c'est un sujet infirme. Alors c'est sûr que, par exemple, la ligne hegelio-marxiste va beaucoup plus insister sur l'aspect, moi je dirais pas communautaire si vous voulez, mais politique de l'être humain. sa relation. C'est pas absent, vous l'avez bien vu sur morale d'esclave. Enfin, la force de sa pensée n'est pas dans le domaine du politique et du social, ou de l'histoire. La pensée de l'histoire reste quand même pas absente, mais seconde. C'est pas sa problématique. Alors que c'est quand même celle de la lignée hegeliano-marxiste, par exemple. C'est là qu'on retrouve, me semble-t-il, des perspectives qui, il faut pas le reprocher, c'était pas. Non, mais je crois que vous avez raison, oui, on peut dire qu'il est dans cette ligne. Et c'est pourquoi c'est très frappant quand même que les gens de la ligne thomiste ne comprennent pas. Enfin, ils sont sortant dehors. C'est très étonnant, hein, presque affligeant, mais.
Mais ce qui est marquant aussi, je trouve, c'est la place de l'individu. On a l'impression qu'il, quand il écrit, qu'il parle toujours d'un homme seul, isolé.
Tout à fait.
Et,
oui.
Et du coup, l'espace social n'a aucune place. Si ce n'est pour l'identité du groupe des nobles ou du groupe des esclaves, dans lequel il va reconnaître un idéal, mais un idéal pour l'individu auquel il s'adresse.
C'est certainement une pensée de l'individu. C'est une pensée de la solitude. Là, c'est tout à fait clair. Donc, c'est pas un penseur du social ou un penseur de la politique, tellement, sinon indirectement. Non, je vous ai raison. C'est une pensée de l'individu.
Je ne suis pas trop d'accord. Non. Je trouve que, justement, c'est lui qui a mieux prophétisé le monde actuel, l'aspect politique, social, les 35 heures, le désir, en fait, tout y est.
Oui.
Il y a tout. Donc, il a pensé toujours l'individu et l'évolution de la société parce que l'individu a changé.
C'est ça, mais oui, non, bien sûr.
Je pense qu'il est justement très percutant sur le plan politique et social. Très percutant. Il est le seul à avoir.
Oui. Ben, c'est d'ailleurs pourquoi il nous parle aujourd'hui aussi. Ah, ouais. Mais enfin, sa perspective, ce n'est pas une analyse de la société. On ne peut pas dire qu'il parte de là. Hein. Il parle des faiblesses de l'individu. Oui.
C'est ça qui est intéressant.
Oui. Oui, non, ce n'est pas l'individu replié sur son cocon qui ne voit pas le monde, ça c'est sûr. Mais l'angle d'attaque, il suffit de lire le texte de Marx pour percevoir qu'on est dans un autre monde. Hein, on est dans un autre monde. Et donc, il ne faut pas essayer de raccrocher. Chez Nietzsche, la présence en tant que telle du politique n'est qu'indirecte. Ça, je crois qu'il faut quand même le dire. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Ça, vous avez raison. Oui. Non, je crois même qu'il est très fécond. Mais comme souvent aussi, sans doute injuste.
L'autre, il n'y a jamais l'autre dans Nietzsche.
Il y a l'amitié. Il y a l'amitié, quand même. Et puis l'altérité, quand même, qui est en soi-même la souffrance. L'autre, il est en vous, d'une certaine façon. Puisqu'on n'arrive jamais à se rejoindre soi-même. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est toujours habité par un autre que soi. Et donc, au fond, c'est l'idée un peu d'inconscient. Mais l'autre, évidemment, c'est pas l'autre au sens de Lévinas, c'est pas le visage, c'est pas ça, c'est sûr. Oui. Oui, ça, de ce point de vue-là, et même il est très sévère sur la pitié, sur certaines formes d'altruisme. Ça, il peut pas voir ça en peinture. Non, c'est de ce point de vue-là une philosophie austère. C'est une philosophie. On cherche pas de compensation dans l'amitié, dans une amitié un peu de guerrier, enfin de solitaire. La noblesse, le côté le noble, ne cherche pas des compensations chez autrui. Oui, c'est une philosophie un peu altière, c'est sûr, oui. Mais bon, c'est pas si fréquent d'entendre ça, oui.
Je viens dans une revue chrétienne, je vous dis laquelle, sous la plume d'un prêtre, dont je me souviens du nom, un mot concernant Saint Paul et le christianisme, pour le titre de cité, parce que c'est un petit côté provocateur. Il parle de christianisme, cette moelle religion importée de l'Orient par un petit fanatique de Tars qui par malheur échappa à la tempête.
Oui.
Oh, il a frappé.
Oui.
Tu dois tout écouter provoque. Qui par malheur échappa à la tempête.
Et vous trouvez que c'est Nietzschéen?
Par deux fois, j'ai vu dans
le livre. Oui, non, ça relève un peu de la mauvaise polémique de l'Antichrist, c'est sûr. Mais en même temps, je ne sais pas s'il irait par malheur, parce que de fait, alors c'est de ce point de vue-là, malgré tout qu'il est quand même une pensée de l'histoire, le christianisme a marqué l'Europe, qu'on le veuille ou non. Nous sommes, on l'a vu maintes fois, les héritiers de ça. On peut ne pas être content, mais en même temps, il nous a apporté justement la subjectivité. Il nous a débarrassé quand même de tout un univers religieux impossible. Donc Nietzsche, je ne dirais pas, c'était tellement beau avant Saint-Paul qu'il faudrait y revenir. Malheureusement, il n'a pas coulé au large de Chypre. Je ne crois pas qu'il dirait ça. C'est un fait, il a quand même une influence majeure, heureuse et malheureuse, comme toutes les influences d'ailleurs. Hein. Mais je crois qu'au total, à ses yeux, quand même plutôt heureuse. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit nostalgique du monde grec, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent. Mais je dirais, c'est ça qui est aussi intéressant, enfin ce qui m'intéresse chez lui, c'est que ça n'est pas un homme qui, par rapport au christianisme, est de glace. C'est un adversaire de taille. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des adversaires de taille. Parce qu'en même temps, on voit les failles de la cuirasse, et puis en même temps, on a affaire à quelqu'un qui s'intéresse finalement à la foi chrétienne. Il ne dit pas, bon, ça c'est l'enfantillage, passons à des choses plus sérieuses. Non. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est quand même affaire à quelqu'un qui vous oblige vous-même à être à un certain niveau. Alors, pour en aller, c'est ça que je déplorerais, c'est ce côté d'ignorance, voire de mépris, dans lequel on le tient. D'ignorance. Mais bon, il y en a bien d'autres qu'on ignore, hein, on n'est pas obligé de connaître tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres... Oui ?
Pourquoi une telle fascination chez les philosophes de gauche, dans l'extrême gauche, pour Nietzsche ?
Ben, c'est très curieux, oui. Que faire de Nietzsche un penseur d'extrême gauche, c'est évidemment tout à fait surprenant. Et ça ne lui plairait sûrement pas beaucoup. Seulement, voilà, je crois qu'ils vont accentuer le côté nihiliste de cette pensée. Le côté déconstructeur, Derrida, déconstruction. Donc, le côté négativiste, ça plaît beaucoup par rapport à la société bourgeoise, il faut lui montrer ses défauts, il faut lui montrer ses limites, etc. Et puis, il y a aussi l'idée, qu'on avait vu dans un texte de Lyotard, de l'exaltation de la singularité. Pas seulement l'individu, de la singularité, de la différence. Vous mettez un A, évidemment, pour faire chic. Différent. Donc, il faut différer. Alors, avec ça, évidemment, ce n'est pas une société. Ça ouvre tout droit à des pensées anarchisantes. On s'affirme dans sa différence, point. Les catastrophes, ça, il n'y a pas de si près. Donc, je pense qu'on peut comprendre la certaine fascination pour une pensée non synthétique, non cohérente, de la bataille contre. On peut le récupérer comme ça. Et il prête le flanc à ça, c'est sûr. Enfin, en même temps, on est la noblesse, parce que c'est des pensées d'esclaves, finalement, aussi. Si je m'affirme dans mes différents, peu importe, c'est une pensée d'esclave. Je vais dire à propos de ni Dieu ni maître, hein, sur les tombeaux, c'est une pensée d'esclave. Il n'y a qu'un esclave qui peut dire, je veux m'en prendre à Dieu, je ne veux pas de maître. On a tous des maîtres. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Ni Dieu ni maître, alors je crois que de point de vue Nietzsche, c'est vraiment une pensée d'esclave. Mais pourquoi la fascination, je sais pas bien. On pourrait dire aussi que cette extrême gauche qui avait fait son beurre avec le marxisme, ben, se trouve quand même un peu démunie, pour ne pas dire à poil. Donc, qu'est-ce qui reste sinon l'anarchisme, l'individu en bataille contre le monde? Mais je ne sais pas bien, oui, c'est un peu curieux. Parce qu'il a été aussi récupéré à droite ou à l'extrême droite. Je crois que ce n'était pas mieux pour autant. Parce que c'est un inclassable, je crois que c'est ça qui est aussi... Si vous essayez de le mettre dans une catégorie, il est athée, non, il n'est pas... Il est religieux, il n'est pas religieux, il est immoraliste, il n'est pas immoraliste, il est... Mais c'est ça qui est intéressant, parce que en réalité, ça veut dire que personne n'est classable. Nous ne sommes pas classables. C'est notre manie de classer. Et peut-être qu'on ne peut pas faire autrement, c'est ça qu'il voit bien aussi. Mais il faut toujours s'en dégager. Et le débat sur l'identité aujourd'hui. C'est très mauvais de dire je suis français, catholique, auvergnat, pas d'identité. Alors vous êtes quoi? Vous êtes un nuage qui passe? Mais c'est vrai que l'identité, je suis franchouillard, je suis de l'Auvergne, je bouffe du saucisson le vendredi. Bon, si c'est ça, évidemment, ça. Mais comment voulez-vous être en rapport avec autrui si on n'a pas un minimum d'identité? C'est de la blague. Je réponds à ta question. Je ne sais pas, il y a un côté étonnant. Mais c'est aussi l'aventure des pensées. Hein. Spinoza, c'est la même chose, récupéré par des gauchistes souvent. C'est quand même un peu étrange. Et c'est le cas. Donc oui, c'est l'aventure de pensées qui sont récupérées par les uns ou par les autres de manière étonnante. Oui.
Alors, un sujet peut-être moins grave, mais l'extraordinaire agressivité de Nietzsche contre Wagner, comment vous expliquez?
Ah.
Je pense au texte de René, oui, Girard, qui prétend le retrouver dans un... j'aurais dû vous envoyer ça par Internet, et prétend le retrouver dans les textes posthumes, à l'endroit où Nietzsche dit « Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'aimer sa musique. »
Oui, ben, dans le texte qu'on a lu l'autre jour, ben, il y a des perles. Non, mais c'était typiquement un attachement, détachement affectif. Il y a un côté affectif qui est tout à fait clair. Parce que Wagner a tenu très longtemps pour Nietzsche de père. Il n'a jamais eu de père. Son père est mort à 4 ans. Et Wagner, dans son prestige, dans son talent de musicien, dans son génie humain, a été pour Nietzsche à la fois un père. Et le père, chacun sait qu'il faut le tuer à un moment ou l'autre. Parce qu'il vous empêche d'être créateur. Et c'est tout à fait caractéristique. Quand il apprend la mort de Wagner, il est à Venise en 83. Il écrit une lettre à Peter Gast, un de ses grands amis, qui a été fidèle tout le temps, pour lui dire, maintenant, en gros, je ne sais plus le texte, hein, que Wagner est mort, je vais pouvoir donner naissance à mon Zarathustra. Vous voyez, le père castrateur. Donc il y a un conflit, et jusqu'au bout, mais c'est un peu comme avec le christianisme, jusqu'au bout il discute, et pourquoi cet attachement? À la fois il n'en veut pas, et en même temps il ne peut pas dire oh, le problème est liquidé, on tourne la page. Non, avec Wagner c'est la même chose. Alors il y a des questions de rivalité autour de Cosima, de rivalité aussi intellectuelle. Nietzsche aurait voulu être un peu le philosophe de Wagner, le penseur de Wagner, qui n'avait rien à faire de ce petit Nietzsche, hein. Et puis alors aussi, il n'a pas, Nietzsche, alors ça va plus loin, n'a pas aimé le culte autour de Wagner à Bayreuth. Ça, c'est à lui passer insupportable. Cette espèce de nouvelle religion mythologique, païenne, chrétienne, etc., ça ne l'allait pas du tout. On retrouve le solitaire, c'est ce côté un peu de culte. Non, mais c'est vrai, c'est le côté d'attachement, détachement, on ne peut pas s'en détacher, on ne peut pas... avec des critiques excessives, et une admiration. C'est ça le père, on veut le tuer, et en même temps on l'aime bien. Bon, est-ce que tout est... Voilà, écoutez, merci de votre attention soutenue, j'espère que ça vous aura ouvert un peu à cette pensée difficile.